le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, que l'Europe tienne à nouveau sa promesse de démocratie, de progrès et de paix. Plaidoyer d'Emmanuel Macron devant le Parlement de Strasbourg. Il plaide pour l'inscription du droit à l'avortement et la protection de l'environnement dans la charte des droits fondamentaux. Strasbourg, capitale de la campagne présidentielle. L'eurodéputé et candidat à l'Élysée Yannick Jadot lui répond. Éric Zemmour, de son côté, cogne sur l'Europe passoire depuis Calais. Autre fait de campagne ce matin, Arnaud Montebourg.
Le moment est donc venu pour moi de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle.
Et il ne soutient aucun candidat. De son côté, Valérie Pécresse ressort un nouveau mantra sarkozyste, travailler plus pour gagner plus, heures sup défiscalisées et salaire contre RTT. Dans l'actualité encore, l'acteur Gaspard Ulliel, grièvement blessé après un accident de ski, 465 000 nouveaux cas de Covid, nous ne sommes pas au pic. À 13h30, j'attends vos questions et témoignages. Avoir un enfant après 40 ans, c'est de moins en moins rare d'après le bilan démographique de l'INSEE. On en parle avec une gynécologue et un sociologue et j'attends donc vos interventions. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Est-ce un signe du changement climatique? Déjà, les premières cigognent dans l'estuaire de la Loire.
Ils vont monter là-haut. Voilà, ils se reposent à côté de nous. Ouais, super.
Reportage Hélène Roussel tout à l'heure. Et dans C'est une chanson, Véronique Sanson aujourd'hui, Une nuit sur son épaule. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Drapeau bleu-blanc-rouge et ou drapeau bleu étoilé. L'actualité politique, à un peu plus de 80 jours de la présidentielle, tourne autour de l'Europe aujourd'hui. Emmanuel Macron est devant le Parlement de Strasbourg pour lancer la présidence tournante de l'Union européenne qui revient à la France. Discours avant de répondre aux députés. C'est un chef d'État entre espoir et inquiétude pour l'Union que l'on a entendu seul pendant une demi-heure. Inquiet pour la démocratie sur le continent, son unité, sa capacité à répondre aux défis de l'immigration. Extrait, c'est la toute fin du discours de la part d'un Emmanuel Macron né 20 ans après le traité de Rome qui a fondé l'Europe.
Mesdames et messieurs les députés, je suis né en 1977 et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne. Sur les terres ensanglantées du nord de la France, sur lesquelles j'ai grandi, l'Europe était la paix, comme une évidence. J'ai vécu ensuite, comme beaucoup d'entre vous ici, le grand doute européen, le référendum de 2005, l'accusation technocratique, le risque de dislocation face à la crise des dettes souveraines. Nos générations ont aujourd'hui à refonder notre Europe pour faire face à ces promesses de démocratie vivante, de progrès et de paix. Nous avons à retrouver le sens de l'unité, le goût du temps long, au fond la nécessité de l'audace, le sens de ce que Robert Schuman appelait les efforts créateurs. Nous en avons la force, nous en avons les moyens. C'est pour cela que j'ai confiance en nous. Je vous remercie.
Bonjour Angélique Boin.
Bonjour à tous.
En direct de Strasbourg pour France Inter. Angélique, au-delà de l'esprit de ce discours dont on vient d'avoir une idée, il y a quelques annonces à retenir des propos du président français en fin de matinée.
Oui, Emmanuel Macron en fait a commencé devant un Parlement que l'on sait très attaché à l'état de droit par un très long développement sur les valeurs européennes malmenées, dit-il, dans certains pays, Pologne, Hongrie, qu'il n'a pas cité, mais chacun doit disposer d'une justice indépendante, a-t-il insisté. L'état de droit est notre trésor, a déclaré le chef de l'État. Emmanuel Macron, qui propose d'actualiser la charte européenne des droits fondamentaux, qui avait consacré l'abolition de la peine de mort il y a 20 ans, je vais proposer, a-t-il annoncé, de l'étendre à la protection de l'environnement et à la reconnaissance du droit à l'avortement. Il a dit cela devant la nouvelle présidente du Parlement, la Maltaise Roberta Metsola, anti-IVG et issue du dernier pays de l'Union à l'interdire complètement, y compris en cas de viol. Le président français a aussi défendu plus rapidement ses grandes priorités européennes que l'on connaît, transition écologique, numérique. Nous devons rebâtir un modèle européen de croissance, devenir des champions, a-t-il résumé, en citant les dossiers prioritaires, régulation des plateformes, taxe carbone aux frontières, des textes législatifs en cours de négociation, Bruno, et pour lequel il a besoin de l'appui du Parlement. Il a aussi rappelé son attachement à une Europe sociale avec l'instauration de salaire minimum dans l'Union, une plus grande égalité hommes-femmes, plus de transparence sur les différences salariales. Il entend aussi mieux protéger les travailleurs des plateformes. Enfin, il a longuement développé la nécessité de mieux protéger l'Europe dans une période tourmentée et face, dit-il, au retour tragique de l'histoire, mieux protéger ses frontières extérieures avec une réforme de Schengen. Mais les 27 doivent aussi s'entendre entre eux, dit-il, pour proposer un nouvel ordre de sécurité et de stabilité face à la Russie avec l'OTAN, mais dans un dialogue franc et exigeant avec Moscou, a-t-il précisé.
Angélique Bouin en direct de Strasbourg pour France Inter. Et le président français est toujours dans l'hémicycle, plus d'une heure et demie après le début de son discours, car le dirigeant du pays chargé de la présidence tournante de l'Union devant les députés, c'est l'usage. Et l'usage veut aussi que les eurodéputés lui répondent. Bonjour Maxence Lambrecq.
Bonjour.
Service politique de France Inter, vous aussi à Strasbourg. Et dans l'hémicycle, eh bien, il y a un des candidats à la présidentielle, l'écologiste Yannick Jadot. Si bien que le Parlement de Strasbourg était un lieu de campagne ce matin, Maxence.
Oui, dans cette arène feutrée, moquette grise, fauteuil bleu, des discours de campagne, 3 ou 4 minutes chacun. Donc Yannick Jadot va à l'essentiel en regardant vers Emmanuel Macron assis à sa gauche.
Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique.
Qui lui succède? Le président du RN, Jordan Bardella, qui est là comme le porte-parole de Marine Le Pen.
L'élection présidentielle des 10 et 24 avril prochains ne décidera pas seulement du sort de la France, mais de celui de l'Europe tout entière. Comment pouvez-vous prétendre aujourd'hui en rassembleur en Europe alors que vous aurez été jusqu'au bout le diviseur de la France, préférant à l'unité du pays la concurrence généralisée et donc la guerre de tous contre tous.
Il n'avait pas fini, les eurodéputés en marche, le U, c'est faux, stop, arrêtez-le. Puis le président du PPE, le parti de centre-droit, l'allemand Manfred Weber, met lui aussi les pieds dans le plat.
Valérie Pécresse.
Avec Valérie Pécresse, dit-il, nous avons une concurrence saine au centre de l'échiquier politique. Je m'en réjouis. Et peut-être, voyons ce que les Français décident. Ils voteront pour la première fois pour une femme présidente pro-européenne. Voilà, ces prises de parole agacent au premier rang le lieutenant du président Stéphane Séjourné, patron du groupe Renew.
Quelle honte de transformer cet hémicycle en Assemblée nationale.
La socialiste espagnole fait aussi un rappel au règlement. Emmanuel Macron va bientôt leur répondre, mais il avait anticipé ses attaques dans son discours introductif.
Ni l'invective, ni les divisions, ni les interdictions, ni les facilités, ni le retour au nationalisme, ni la dissolution de nos identités ne seront les réponses à ce monde qui advient.
En ce moment, le président griffonne ses feuilles blanches devant lui et se montre impatient de répondre.
Maxence Lambrecq en direct de Strasbourg, je me permets de souligner la petite prouesse qu'est ce reportage, puisque les discours se sont terminés pour ceux que vous avez cités il y a quelques minutes et d'autres se tiennent encore et on a un résumé complet. Merci beaucoup. L'Europe donc, au cœur de la campagne présidentielle aujourd'hui. C'est à Calais, de son côté, qu'Éric Zemmour participe à sa manière à cette journée. Calais pour donner sa version de l'Europe qui ne sait pas défendre ses frontières face à l'immigration clandestine. Élodie Forêt.
C'est sur l'ancien site de la jungle, lieu de rendez-vous annoncé au dernier moment pour éviter des manifestations hostiles, qu'Éric Zemmour attaque Emmanuel Macron.
L'Europe d'Emmanuel Macron est une Europe sans corps, une Europe sans tête et une Europe sans âme. Sans corps. Elle n'a pas de frontières. Or, ce qui n'a pas de limite, pas de bornes, pas de contenant fixe et ferme, n'existe pas. C'est une Europe théorique et, pour tout dire, fictive.
Une Europe sans frontières, dénonce Éric Zemmour, qui a choisi Calais pour cette raison. Exemple ultime, selon lui, d'un État qui a perdu le contrôle de sa politique migratoire. Lui veut donc déroger dès son élection aux règles européennes sur l'immigration, faisant ainsi fi de l'État de droit qu'Emmanuel Macron a tant défendu dans son discours.
Emmanuel Macron me rappelle la statue des bourgeois de Calais. Robe de bure, tête cendrée, genoux à terre, il tend les clés de la ville à ceux qui veulent nous détruire. Je veux reprendre les clés. Nous allons reprendre les clés.
Éric Zemmour, vous l'entendez, dont le discours aura été perturbé par le vent et ses quelques cris de manifestants tenus à distance, hurlant au mégaphone, repris de justice, on ne veut pas de toi.
Élodie Forêt, donc dans le vent de Calais et de la campagne électorale, autre propos marquant de la matinée dans le cadre de cette campagne, c'est officiel, Arnaud Montebourg se retire de la course à la présidentielle. L'ancien ministre n'a jamais réussi sa remontada dans les sondages. Eh bien, il en tire les conséquences ce matin.
Je suis venu vous dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures, et ce malgré mes efforts et l'engagement de mon équipe. J'ai engagé une franche discussion avec tous les candidats appartenant à ma famille politique, mais aucun n'est décidé à surmonter nos désaccords. J'en ai tiré la conclusion que mes idées étaient certainement devenues étrangères à ma propre famille politique. Le moment est donc venu pour moi de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle. Je crois inutile et désespérant d'ajouter du désordre à la confusion d'un trop grand nombre de candidatures. J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ses perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées.
Arnaud Montebourg, ce matin, comment sa candidature a pris l'eau en 4 mois? Vous trouverez un récit détaillé sur franceinter.fr. Montebourg se retire et pour Anne Hidalgo, la campagne est difficile. Pourquoi cela? Eh bien parce que les socialistes ne se sont pas préparés comme ils auraient dû le faire. C'est l'analyse de l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Pendant 5 ans, dit-il, le travail sur le fond qui devait être fait de réorganisation, de projection d'un projet, de mise en évidence de talent n'a pas été fait, selon Bernard Cazeneuve ce matin sur France Info. Il soutient Anne Hidalgo. Quant à Valérie Pécresse, après le Karcher, eh bien elle ressort une autre formule choc de Nicolas Sarkozy. Le travailler plus pour gagner plus. Invitée hier soir de BFM, la candidate de droite propose que plus aucun impôt ni charge sociale ne soit exigible sur les heures supplémentaires. Et elle propose aussi, Fabien Cazeau, de pouvoir plus largement échanger des RTT contre du salaire.
Oui, comme dans les entreprises où cela est déjà possible via un compte épargne-temps. En fait, il s'agit de permettre aux salariés de faire un arbitrage entre temps et argent sans aucune limite, plaide Valérie Pécresse, et sans cotisation sociale patronale pour ne pas dissuader les employeurs de solder ainsi les jours de RTT. Il ne s'agirait pas d'un côté de promettre des baisses d'impôts pour libérer le travail et de l'autre de reprendre des cotisations sociales sur les RTT monétisé. Donc c'est effectivement le retour du travailler plus pour gagner plus en version plus incitative que ce qui avait été fait sous la présidence de Nicolas Sarkozy. L'idée ne s'était d'ailleurs pas beaucoup traduite concrètement il y a 15 ans, mais le constat reste le même. Tous les salariés ne prennent pas toutes les RTT auxquelles ils ont droit sur une année, notamment dans le cas de fin de contrat de travail, quand il reste un reliquat de quelques jours. L'employeur indemnise parfois, parfois pas. Dans tous les cas, une éventuelle généralisation du système passerait nécessairement par des accords d'entreprise négociés avec les partenaires sociaux.
Pour clore cette page consacrée à la campagne électorale sur franceinter.fr, vous pouvez réécouter l'interview de Marine Le Pen, qui était ce matin l'invitée du 7-9 spécial présidentiel. Elle affirme notamment avoir du mal à financer sa campagne, une 50aine de refus de banques, dit-elle. Si ce sont les banques qui peuvent décider qui est candidat et qui ne l'est pas, on a un souci à se faire, selon Marine Le Pen. Elle regrette que le projet de banque de la démocratie, cher à François Bayrou, allié d'Emmanuel Macron pendant la campagne de 2017, n'ait pas vu le jour. Et puis, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, là aussi dans le contexte de la campagne, alerte sur le montant de la dette. L'actualité économique, c'est encore, et là cette fois-ci à l'étranger, les actions de 2 grands japonais en baisse marquée ce matin à la bourse de Tokyo. Moins 13% pour Sony, alors que Microsoft devient un concurrent plus que sérieux dans le jeu vidéo, en rachetant pour 70 milliards Activision Blizzard, qui compte des jeux incontournables comme Candy Crush ou Call of Duty. Et puis baisse de 5% pour Toyota, qui souffre de la pénurie de semi-conducteurs.
France Inter, le journal de 13h.
Avant d'ouvrir la page Covid, cette information qui nous est parvenue il y a moins d'une heure, l'acteur Gaspard Ulliel est très grièvement blessé après un accident de ski à la Rosière en Savoie. Colline Mollard, France Bleu Pays de Savoie.
16h hier après-midi, l'acteur de 37 ans skie sur une piste bleue quand une collision se produit avec un autre skieur au croisement entre 2 pistes. Gaspard Ulliel est gravement touché. Lorsque les secouristes de la CRS Alpes arrivent sur place, il est inconscient. L'acteur est médicalisé sur les lieux de l'accident pendant plus d'une heure avant son transport par hélicoptère vers le CHU de Grenoble. Selon nos informations, son état est jugé grave. Il souffre d'un traumatisme crânien important. L'autre skieur impliqué dans l'accident n'a pas été hospitalisé, mais on ne connaît pas l'état de ses blessures. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête pour établir les circonstances de l'accident.
Gaspard Ulliel, pris en charge donc au CHU de Grenoble. Il est âgé de 37 ans. L'espoir d'une vague Omicron moins longue et violente que redoutée est bel et bien là en ce début 2022. Mais nous sommes encore dans le dur. Les derniers chiffres de contamination hier le prouvent, record absolu, près de 465 000 nouveaux cas. Comment expliquer ces chiffres? Une journée ne dessine pas une tendance, certes, mais tout de même. Élément de réponse avec Guillaume Rosier, fondateur d'un des sites de référence pour suivre l'épidémie Covid Tracker.
Effectivement, on a espéré un pic de contamination, un pic de cas positifs en tout cas ces derniers jours, tout simplement parce que la hausse des cas positifs a nettement ralenti. On avait une hausse qui était très très rapide fin décembre, qui restait rapide dans la première quinzaine du mois de janvier, avec une hausse comprise entre 50 et 100% d'augmentation par semaine. Et là, ces derniers jours, on avait une hausse qui était très très faible. On était à 5-10% de hausse sur une semaine, donc une hausse des cas positifs qui était beaucoup plus faible qu'avant. Et donc, on se demandait si on n'atteignait pas une forme de pic. Malheureusement, c'est pas ce qui arrive pour le moment, en tout cas, puisque effectivement, on a eu un nombre de cas reportés hier, mardi, très, très élevé. Au mieux, on a une légère hausse. Au pire, on a une hausse modérée, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de baisse épidémique actuellement.
Propos recueillis par Hélène Chevalier, le Covid version Omicron toujours là et les écoles toujours sous tension. Rappelons le protocole depuis une semaine et demie. Si un élève est cas contact, il doit faire un autotest le jour même, puis 2 et 4 jours après. Les parents, de leur côté, doivent fournir une attestation sur l'honneur pour assurer que leur enfant est négatif et peut retourner en classe. Mais face à un protocole que beaucoup jugent trop lourd chez les parents, certains contournent les règles. Steven Goyer s'est rendu devant une école de Boulogne-Billancourt en région parisienne.
Comme beaucoup d'autres dans cette école, ces derniers jours, la fille de Mathilde s'est retrouvée cas contact et donc obligée de se soumettre à des autotests à la maison.
Je ne l'ai pas fait, en plein week-end, je ne l'ai pas fait. Parce que mettre un coton dans le nez de ma fille, moi je suis ni infirmière ni pharmacienne, donc je ne l'ai pas fait.
Mathilde assume avoir rédigé une fausse attestation pour permettre à sa fille de revenir en classe. Une décision compréhensible pour David, lui aussi tenté s'il ne trouve pas d'autotest en pharmacie.
Le problème c'est que c'est minimum 30-35 minutes d'attente. On n'attend pas forcément, donc l'attestation sur l'honneur. Si on n'a pas le test, ça va être compliqué.
D'ailleurs, du côté des enseignants, on s'interroge ces derniers jours sur la sincérité de ces fameuses attestations.
Oui, on peut avoir des doutes sur certains enfants, oui.
Catherine enseigne en CE2.
Les dates ne sont pas toujours les bonnes et les enfants arrivent, ils ne sont pas toujours très bien. Et puis le lendemain, là, ils ne sont plus là parce qu'ils sont positifs. Voilà, donc là, quand ils sont malades, ils font le test.
L'enseignante dit regretter l'obligation de faire un premier test antigénique en pharmacie, seule preuve valable à ses yeux pour s'assurer que les écoliers sont réellement négatifs.
Demain, nouvelle journée de mobilisation dans les écoles, collèges et lycées à l'appel d'une partie des syndicats, fédérations de parents d'élèves et mouvements lycéens. Et la manifestation prévue à Paris ne sera pas empêchée par la préfecture de police de Paris, est-il précisé ce matin. La déclaration par les syndicats avait été déposée hors délai. La Russie peut lancer à tout moment une attaque en Ukraine. Ce sont les propos de la porte-parole de la Maison-Blanche à Washington. Des dizaines de milliers de soldats russes sont mobilisés à la frontière. Fort de ce double constat, après une première série de rencontres diplomatiques au début de l'année, c'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui sera à Moscou vendredi, à Berlin demain et aujourd'hui à Kiev, capitale de l'Ukraine. Bonjour Bertrand Guélichet.
Bonjour Bruno.
Bertrand, peut-on encore trouver une porte de sortie diplomatique ?
Eh bien, c'est ce que veut croire Anthony Blinken, qui appelle Vladimir Poutine à choisir une voie pacifique pour sortir de cette crise aux frontières de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine précise qu'en fin de compte, ce sera la décision du président russe. Anthony Blinken rappelle que la Russie agit sans avoir été provoquée et que Moscou veut mettre en cause des principes fondamentaux du système international, notamment le fait qu'un État n'a pas le droit de changer les frontières d'un autre pays par la force. Vous savez que l'armée russe s'apprête à mener à la mi-février des exercices d'ampleur sur le territoire de la Biélorussie, donc au nord de l'Ukraine. Mais ce qui inquiète le plus les États-Unis, c'est l'éventualité d'un déploiement de missiles nucléaires russes sur le territoire de la Biélorussie par le biais de changements constitutionnels. Il en a bien sûr été question aujourd'hui au cours des entretiens entre le secrétaire d'État américain et Volodymyr Zelensky, qui remercie Washington pour l'augmentation de son aide militaire, surtout en ces temps difficiles, reconnaît le président ukrainien. Washington a annoncé ces dernières heures une provision de 200 millions de dollars supplémentaires pour une aide sécuritaire défensive à l'Ukraine.
Bertrand Guélichet en direct pour France Inter au Tonga. Les avions qui transportent l'aide d'urgence vont pouvoir atterrir 4 jours après l'éruption du volcan. Quelle est l'ampleur du bilan humain et des destructions au Tonga? C'est difficile de le savoir. La rupture du câble Internet empêche d'avoir des informations précises, mais les cendres ont donc été dégagées de cette piste d'atterrissage qui va permettre l'arrivée des avions. Vous vous souvenez peut-être de cette histoire atroce, les corps de 39 personnes originaires du Vietnam découverts à l'arrière d'un camion près de Londres. C'était en octobre 2019. Plus de 2 ans après, un homme de 45 ans, vietnamien lui aussi, considéré comme l'un des organisateurs du réseau, vient d'être condamné à 15 ans de prison ferme. Julie Pietri.
Pour la justice belge, Vo Van Hong, qui clame toujours son innocence, est bien le leader d'un réseau de trafiquants qui cachait les migrants dans 2 planques à Bruxelles. Il supervisait leur passage en Belgique, leur disait par exemple quand éteindre ou allumer leur téléphone et organiser leur voyage vers l'Angleterre. Entre septembre 2018 et mai 2020, son organisation a permis à 115 personnes d'entrer illégalement au Royaume-Uni. Dans cette affaire, c'est en octobre 2019 qu'un conteneur quitte le port belge de Zeebruges pour arriver en territoire britannique. Les Vietnamiens cachés à l'intérieur sont ensuite transportés à l'arrière d'un camion. Ils sont 39, des hommes, des femmes âgées de 15 à 44 ans, originaires d'une région pauvre du Vietnam. Ils seront tous retrouvés morts à cause de la chaleur et du manque d'oxygène. Au total, ce sont 23 personnes, surtout des Vietnamiens ou des Belges d'origine vietnamienne, qui ont été jugés à Bruges. 19 ont été condamnés aujourd'hui.
C'est une confirmation, on vous en parlait il y a quelques jours dans ce journal. Ces 7 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Dans tous les cas, la température mondiale a dépassé de plus d'un degré ce qu'elle était au moment de la révolution industrielle. Le dérèglement climatique est un fait, tout comme l'action humaine comme cause principale. L'impact de l'homme sur l'environnement, on le lit aussi dans le dernier rapport du WWF, le Fonds mondial pour la nature, la déforestation comme conséquence de l'agriculture intensive. Et ce qu'on dit moins souvent, c'est que les forêts tropicales ne sont pas les seules menacées. La moitié des prairies et savanes ont été détruites dans le monde. Or, Célia Kiré, les prairies stockent autant de carbone que les forêts, il faut absolument les préserver.
L'exemple le plus frappant, c'est le Cerrado en Amérique du Sud. Cette région de savane est de plus en plus grignotée. Ce sont les terres agricoles qui s'étendent. Les exploitants compensent en effet ici les interdictions de cultiver dans la forêt amazonienne. En 35 ans, le Brésil a perdu 26 millions d'hectares de savane. C'est plus que la superficie de la Grande-Bretagne, s'alarme Véronique Andrieux du WWF.
C'est une vraie destruction qui est à l'œuvre sur ces milieux. Le Cerrado, c'est la savane la plus biodiverse au monde. Protéger uniquement la forêt dépend en fait la déforestation à d'autres écosystèmes et notamment voisins. On l'a vu avec le moratoire du soja en Amazonie en 2006 qui a déplacé la déforestation dans le Cerrado.
Or l'Union européenne n'y est pas pour rien. Un quart du bœuf importé provient par exemple de cette savane du Cerrado et la proportion est la même pour le soja. Le WWF s'adresse aux dirigeants européens. S'ils veulent lutter contre la déforestation, ils doivent protéger les prairies, les savanes sans oublier les tourbières.
Elles sont l'écosystème le plus dense en carbone. La destruction des tourbières est responsable de 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, ce qui équivaut à 2 fois plus que l'aviation, par exemple.
En novembre, la Commission européenne a déjà proposé d'interdire l'importation de certains produits, soja, huile de palme, cacao, issus de la déforestation. Certaines ONG attendent une législation encore plus stricte.
L'Indonésie va changer de capitale politique. Trop de pollution, trop d'embouteillages à Jakarta, sur l'île de Java. 30 millions d'habitants à Jakarta. La côte s'enfonce sous la mer, en plus dans cette île. Le Parlement rêve donc d'une capitale zéro émission sur l'île de Bornéo. Elle aura pour nom Nusantara. Construction prévue jusqu'en 2045. On dirait un film. Bah tiens, ça tombe bien, on arrive au cinéma. Quelle transition. Bonjour Corinne
Pelletier. Bonjour.
La chronique cinéma du mercredi, votre sélection. Vous nous emmenez d'abord aujourd'hui dans les coulisses d'un grand restaurant à Londres avec The Chef, nouveau film du réalisateur Philippe Barantini qui a reçu 4 trophées lors des derniers British Independent Film Awards.
Alors, plus jamais, Bruno, vous n'irez au restaurant sans repenser à ce film qui vous fait vivre en un seul et unique plan séquence le coup de chaud d'un début de service à la veille de Noël dans l'un des plus grands restaurants de la ville. 1h30 passée à la fois dans la salle derrière les fourneaux, dans la réserve et aux côtés de la brigade de Stephen Graham dans le rôle du chef Andy McLeod, validé par la critique, ultra talentueux, mais dépassé par les dettes et plus tellement concentré sur son travail. Du coup, quand le service des hygiènes décide un jour de rétrograder son restaurant de 5 à 3 étoiles, c'est un grand vent de panique qui s'empare de tout le personnel et nous fait basculer, nous spectateurs, dans une nouvelle version de Cauchemar en cuisine avec une esthétique beaucoup plus léchée et un résultat vraiment stupéfiant. C'est un huis clos ultra tendu que vous allez vivre comme un thriller. Les crises d'égo, la clientèle qui n'est pas toujours facile et c'est vraiment l'une des belles surprises de ce mercredi.
Et ça s'appelle donc The Chef. Je crois que les copains Delmas et Masson en avaient parlé dans On aura tout vu. On peut réécouter l'émission de samedi dernier aussi. Cinéma,
cinéma également cette semaine, Corinne, les leçons persanes.
Voilà, une fiction plus vraie que nature adaptée d'une pièce de théâtre sur la vie dans les camps de concentration pendant la guerre. L'histoire ici d'un jeune juif déporté qui va sauver sa peau en inventant une nouvelle langue et une autre identité grâce à un livre reçu en échange d'un morceau de pain à un autre prisonnier. Un livre en langue farcie qui va lui donner l'idée de se faire passer pour un persan. Évidemment, il faudra inventer le vocabulaire qui va avec, car l'officier SS en charge du camp aura très envie de s'y mettre lui aussi. Donc je vous laisse imaginer le défi, 4000 mots à inventer, à retenir. Nahuel Pérez-Biscaya dans le rôle est formidable, mise en scène assez classique, mais n'oublie jamais de montrer toute l'horreur de la guerre du quotidien des camps.
Les leçons persanes après The Chef, et puis dernier choix pour cette semaine, Corinne, Memory Box, autour des souvenirs de jeunesse d'un couple de réalisateurs libanais.
Johanna Hadji Thomas et Khalil Jorej, que les amateurs d'art contemporain connaissent bien pour leur travail sur la mémoire. Exposés partout dans le monde, ils nous proposent aujourd'hui une plongée dans les années 80. Et oui, même à Beyrouth, pendant la guerre civile, on écoutait Blondie. C'est un film résolument tourné vers la vie, qui s'inspire du vécu, notamment de Johanna, qui a échangé pendant 5 ans une correspondance avec sa meilleure amie, l'une à Beyrouth, l'autre à Paris, sous la forme de lettres, de photos, de cassettes, pour raconter leur quotidien, la peur des bombes, mais aussi leur envie de liberté. Le résultat prend la forme ici d'une fiction autour d'une adolescente qui va découvrir dans les archives de sa mère des souvenirs oubliés. C'est remarquable, très créatif aussi du point de vue de la mise en scène.
Memory Box. C'est donc, vous nous signalez également un quatrième titre sorti sur les écrans ce mercredi du nouveau film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. C'est un film France Inter. Merci Madame Pellissier. Allez, avant la météo, Sébastien Léas vient d'arriver. Un tour d'abord dans l'estuaire de la Loire, tout près de Saint-Nazaire. Hélène Roussel, France Bleu Loire-Océan, a assisté à l'arrivée des premières cigognes. Déjà, oui, effet certainement du changement climatique.
Rendez-vous au pont de paille, à Trignac.
Je vais vous emmener sur les bords de Brière, voir si les premières cigognes sont arrivées. Hubert Duguet, ornithologue, et je suis responsable de l'association Acrola pour la connaissance et la recherche ornithologique en Loire-Atlantique.
Le paysage défile, marais dans la brume, et nid de cigognes, vides pour la plupart, tout en haut des pylônes à haute tension. Quand soudain, deux oiseaux majestueux passent sous nos yeux.
Ils vont monter là-haut, voilà, ils se reposent à côté de nous. Ouais, super. On va s'approcher, on va regarder à la lunette, si on peut.
Des cigognes qui arrivent du Maroc, du Portugal ou d'Espagne, des couples fidèles qui reviennent pondre dans le même nid, parfois depuis plus de 15 ans.
On suit ça sur notre ordinateur et on voit bien que on en a quelques-unes qui ont franchi les Pyrénées hier et avant-hier. Il y a quelques années, elles arrivaient beaucoup plus tard, début mars. Aujourd'hui, sans doute sous l'effet du réchauffement climatique, elles arrivent de plus en plus tôt.
Plusieurs dizaines de milliers de plumes avec du duvet, la cigogne craint plus le manque de nourriture et crevisses ou vers de terre que le froid. Et avec le réchauffement climatique, les marais de Brière sont plus secs plus tôt, d'où leur arrivée précoce. Hubert Duguet, l'œil sur la longue vue, passionné depuis 30 ans.
Comme c'est des gros oiseaux, on peut rester à distance, il n'y a aucun problème. Vous voyez, on est à 150 mètres et on les voit très très bien. Donc le message, c'est rester éloigné pour ne pas les embêter.
Distanciation sociale.
Exactement.
Les aimer de loin et il y a de quoi faire. Un seul nid en Loire-Atlantique il y a 30 ans, 260 aujourd'hui.
Récit Hélène Roussel, France Bleu, Loire-Océan. La météo à suivre.
Écouter les infos,
savoir le vrai du faux,
se faire une opinion
et entrer dans l'action.
Avec l'appli Radio France et la plateforme radiofrance.fr, retrouvez toute l'information en accès libre.
En direct ou en podcast,
Radio France,
entrée libre.
Pour suivre son traitement,
garder ses repères,
c'est capital.
Les originals du laboratoire Organon, c'est 22 médicaments
au prix de leur générique.
L'idéal. Parlez-en à votre médecin ou allez sur organon.fr.
France Inter M.
What year are we in?
1941.
What day is today?
Wednesday, I think.
Nightmare Alley, un film noir de Guillermo del Toro.
You barely know me.
Oh no, you're no good.
Dans les années 40, un faux médium met sur pied une arnaque pour soutirer de l'argent à la haute société new-yorkaise. Mais son rêve américain va se transformer en cauchemar. Nightmare Alley avec Bradley Cooper, Kate Blanchett et Rooney Mara, actuellement au cinéma. Un film France Inter.
Voyons le temps de ce jour.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Je les trouve joufflus, les petits nuages que vous avez dessinés sur ma feuille, arrivés de pluie par le nord-ouest.
Oui, en plus ils sont assez nombreux, hein, vous verrez aujourd'hui. Hein. Des pluies touchent actuellement la Bretagne et le Cotentin. Et cette perturbation va lentement s'enfoncer sur le pays cet après-midi, envahissant les pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. En fin de journée, cette perturbation abordera aussi le centre-Val de Loire, la région parisienne et la Champagne-Ardenne. Mais déjà, cet après-midi, quelques gouttes pourront s'échapper de la vaste couche nuageuse qui s'étale entre la façade atlantique, le midi toulousain, l'Auvergne, le Dauphiné et le quart nord-est.
Ah bah dites-moi.
Oui, effectivement, et sur l'ouest du massif central, on peut même avoir localement un petit peu de neige. Mais en montant en altitude sur les Pyrénées et les Alpes, vous passerez au-dessus de cette couche nuageuse et vous profiterez d'un soleil généreux. De belles éclaircies se développeront aussi sur le Languedoc-Roussillon et entre Strasbourg et Mulhouse. Mais la Provence et la Corse auront un ciel nuageux cet après-midi. Quelques gouttes sont même attendues sur les Bouches-du-Rhône et le Var. Et puis pour les températures, prévoyez 3 à 11 degrés jusqu'à 14-15 degrés autour de la Méditerranée. Il fera 4 degrés à Nancy et à Lyon, 8 degrés à La Rochelle, Brest, Lille et Paris, 11 degrés pour Biarritz et Perpignan et 14 degrés à Nice et Ajaccio.
Sébastien Léas, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
31 ans, c'est en chiffres ronds l'âge moyen à la maternité en France l'année dernière. Cet âge était de 29 ans au début des années 2000, il recule donc. Et un autre fait notable, c'est la hausse du taux de fécondité chez les femmes de plus de 40 ans. Le nombre d'enfants pour 100 femmes de plus de 40 ans a augmenté de 50% en 20 ans. Cela reste rare, moins d'un enfant pour 100 femmes de plus de 40 ans l'année dernière selon l'INSEE, mais de moins en moins rare dans les années 80. Le taux de fécondité des 40-42 ans a augmenté, puis 43 ans et plus, et maintenant 46 ans et plus. Alors comment expliquer un tel phénomène? Avoir un enfant après 40, voire 45 ans, quel risque, quel plaisir, quel changement de société cela révèle-t-il? Voilà pour notre sujet jusqu'à 13h45. Il va de soi que j'attends vos témoignages et questions. Il y en a déjà énormément au standard 01 45 24 7000. Appli France Inter, rubrique Réagir également. Deux invités pour dialoguer avec vous. La docteur Sylvie Eppelboin, gynécologue obstétricienne à l'hôpital Bichat Claude Bernard à Paris. Bonjour madame.
Bonjour.
Et Marc Bessin, sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de Parents après 40 ans, coécrit avec Hervé Levillain aux éditions Autrement. Bonjour monsieur Bessin. Et tout de suite, allez, un premier témoignage, il y en a tellement. Sylvie peut-être d'abord. Bonjour Sylvie.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de La Ciotat.
Oui, tout à fait. Eh bien, j'étais enceinte à 42 ans, donc j'ai accouché à 42 ans. Cette grossesse, évidemment, était absolument formidable. C'était un premier enfant, et ça a été le seul. Et c'était mon témoignage. J'avais une toute petite question quand j'étais enceinte, puisque c'était un petit peu tardif, évidemment. C'était sur quand mon enfant va grandir, est-ce qu'il va penser qu'il a une mère un peu âgée par rapport à ses copains, à l'école, etc. Et bien, je rassure toutes les peut-être futures mamans, rien de tel ne s'est produit et il n'y a aucune différence. Les enfants, en fait, il n'y a pas d'âge de parents pour les enfants, il me semble.
Et alors, quel âge du coup a votre enfant? C'est fille, garçon?
C'est un garçon qui a eu 22 ans hier.
22 ans hier, et donc des relations, je dirais, absolument identiques à ce que peuvent avoir des mamans qui ont eu leurs enfants plus jeunes.
Oui, tout à fait. Bon, j'ai des copines qui ont 20 ans de moins que moi.
Oui.
Et ça se passe très bien, et j'ai jamais eu cette impression, oui, d'être dépassée ou quoi que ce soit.
Au contraire, peut-être que ça vous a aidé à tenir jeune.
Ah ben oui, ça c'est certain. C'est certain, parce qu'on a des préoccupations. Je suis nouvellement à la retraite, là, pour mes 64 ans. Et donc, j'ai eu des, on va dire, des préoccupations quand des amis à moi, ayant mon âge, j'étais grand-mère, j'étais maman, mais il n'y a aucun décalage, je trouve, sociétal, justement, par rapport à tout ça.
Merci beaucoup pour ce premier témoignage, Sylvie. Marc Bessin, j'entends deux choses, la peur d'être une vieille maman lorsqu'on est enceinte, et puis finalement, le fait que ça maintient dans un certain dynamisme au fil des années.
Oui, ce sont des choses que l'on retrouve dans les enquêtes qu'on a pu faire, par exemple, avec Hervé Levillain. Bon, c'est d'autant plus intéressant que c'est le témoignage, c'est une naissance il y a 20 ans, voilà. Donc c'est des représentations d'il y a 20 ans. Et depuis, ça a encore évolué, me semble-t-il, sur, disons, la variété des âges, même si, il faut le rappeler, ce sont des faits rare, oui. Mais en même temps, au niveau des représentations, il semble en effet que ça ait un petit peu évolué quand même. On n'est plus dans la stigmatisation des vieux parents, même si...
On était à une époque dans la stigmatisation, carrément.
Oui, il y avait une forme... C'est-à-dire, il y a eu une évolution à partir des années 80, ce qui a fait qu'il y a eu une augmentation, il y a des éléments démographiques, les remises en union, moins de familles nombreuses, etc. Ça fait que ça a évolué, mais la stigmatisation, elle était aussi liée au fait qu'avant, c'était des choses qui étaient subies, soit des familles nombreuses, soit le fait de des grossesses non maîtrisées, alors que maintenant, ce qu'on valorise, c'est le choix.
C'est un choix.
Et c'est ça. Alors que sur le deuxième aspect que vous évoquiez,
maintenir jeune, si j'ose dire,
maintenir jeune, etc. Ça aussi, c'est évidemment, on voit l'âge peut entraîner de la fatigue, de l'usure, mais qui a été parent sait que c'est pas toujours simple et c'est pas tout, ça peut être usant. Mais il y a aussi cet aspect du défi de toujours être et une sorte de challenge que beaucoup de parents, notamment de mères, affrontent avec beaucoup d'énergie souvent.
Allez, deuxième témoignage que je vais vous soumettre à vous, docteur Eppelboin, celui de Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Vous avez eu votre fille il y a 41 ans, je crois.
Tout à fait, voilà. Alors moi j'ai un parcours un peu différent de madame. Je sors d'un parcours de PMA qui a duré plus d'une dizaine d'années, avec des hauts et des bas, des moments de doute et puis à lâcher prise. Plus envie d'être dans ce parcours, donc on a décidé avec mon ami à l'époque, qui n'était pas encore mon mari, de se marier. Et puis quelques mois après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte, tout naturellement. Donc bon, c'est un changement de vie. On vivait un peu comme des étudiants, on sortait, on voyageait. Nos amis avaient des enfants, effectivement, on était toujours un peu en décalage. Et puis l'arrivée de cette petite fille a changé notre vie. C'est un bouleversement tellement énorme, c'est des émotions, c'est d'abord la peur de pas y arriver, et puis après, on est pris dans le jeu de notre rôle, et c'est vrai que c'est un changement qui fait que de toutes les façons, quel que soit l'âge qu'on ait, on s'adapte, et puis surtout, il n'y a pas d'âge pour être parent, c'est un travail de tous les jours, je pense.
Docteur Eppelboin, merci beaucoup Valérie pour ce témoignage. Docteur Eppelboin, on entend là le témoignage d'une personne qui a eu un parcours long de PMA, qui a même tenté procédure d'adoption, et puis finalement, ça arrive par voie naturelle, si j'ose dire, passé 40 ans. Vous avez beaucoup de patientes qui ont ce profil-là?
Alors, beaucoup, non, parce que si c'était la règle, ça serait trop simple, et il n'y aurait plus besoin de... On gommerait toutes les années d'attente et on commencerait par là, et toutes les années de médicalisation. C'est néanmoins un témoignage qu'on a relativement souvent. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, pour mettre en lien aussi avec la relation précédente, on peut être dans les années 2020 totalement des parents épanouis, une maman épanouie à 42 ans. La grossesse en elle-même ne présente plus les complications majeures d'auparavant, qui étaient le diabète, l'hypertension plus fréquente, la prématurité pour le bébé,
et pardon,
etc.
Pourquoi
parce que il y a parce qu'il y a un suivi qui s'est amélioré et qui permet d'éviter. Et par contre, le problème qui reste, c'est d'arriver à être enceinte. Et malheureusement, dans un monde où l'espérance de vie des femmes dépasse 85 ans, on sait qu'à partir de 35 ans, les chances de grossesse sont nettement moindres. Et après 40 ans, que ce soit en naturel ou que ce soit après assistance médicale à la procréation, les chances diminuent. Donc, elles sont très rares. Et au bout d'un moment, si les trompes ne sont pas bouchées, s'il n'y a pas une infertilité masculine majeure, eh bien les chances de la grossesse un peu miraculeuse, naturelle, qui va arriver avec le temps, sont presque identiques à celles en assistance médicale à procréation, que ce soit insémination ou fécondation in vitro. Donc cette histoire arrive de temps en temps et c'est un joli pied de nez à la médecine.
Et ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a donc toujours un suivi particulier pour les femmes de plus de 40 ans, suivi médical, et que ce suivi a progressé au fil des années.
Le suivi obstétrical, de façon générale, a progressé. Donc, c'est simplement le suivi habituel qui doit être parfaitement respecté. Et chez les femmes qui ont des antécédents de diabète, d'hypertension, on va un petit peu plus, quand une grossesse est programmée, faire un bilan vasculaire et entourer, en tout cas, notamment la fin de grossesse, d'un suivi qui ne va pas non plus enlever tout le charme de la grossesse, mais qui va permettre d'éviter les complications, notamment de fin de grossesse.
Et suivi qu'on prolonge un peu plus longtemps après la grossesse que pour les autres femmes ?
Tout dépend des cas. C'est difficile de donner une généralisation. Oui. S'il y a eu des pathologies, il y a eu un suivi de ces pathologies. S'il n'y en a pas eu, il n'y a pas de lieu de le faire.
Christine au téléphone. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous avez eu un enfant à 45 ans, vous êtes enseignante et vous êtes plutôt du côté du regret.
Non.
Ah bon, alors allez-y, expliquez-moi.
Alors, en fait, donc à 40 ans, j'ai connu mon compagnon et à 45 ans, j'étais en santé d'avoir un enfant. Ouais. On avait le même, avec François, on avait le même désir, quoi. Donc, on avait un grand désir d'enfant et en fait, peut-être qu'on était un peu inconscient, mais on était heureux d'avoir un enfant et de l'accueillir. Le problème, si vous voulez, c'est mon gynéco était extraordinaire. Et il savait que c'était une grossesse précieuse parce que j'avais fait une première fausse couche. Ouais. Et 3 ou 4 mois après, on a réussi à l'avoir naturellement. Et du coup, on était enchantés tous les deux. Mais mon gynécologue nous a envoyé, parce que j'avais du diabète gestationnel, il nous a envoyé voir un spécialiste de l'accouchement qui nous a fait une échographie en 3D et qui nous a dit « Oh là là, mais il est fou ce gynécologue de vous autoriser à avoir un enfant à cet âge-là, vous vous rendez pas compte, cet enfant a les oreilles beaucoup plus basses que ce qu'il devrait les avoir, enfin c'est pas normal, et il vous a pas fait en plus le... »
Donc il vous a inquiété ?
Ah oui, 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 complètement.
Et aujourd'hui, comment ça se passe ?
Et aujourd'hui, écoutez, on a failli avoir un enfant trisomique, mais en fait, au 5e mois, on m'a fait la myosynthèse en urgence, et heureusement, elle allait bien. Et aujourd'hui, elle a 14 ans, et elle est adorable, enfin, vraiment, on est très enchantés de la voir. Mais ce à quoi on n'avait pas pensé, si vous voulez, c'est que tous les grands-parents sont décédés, c'est que il y a eu beaucoup de, voilà, j'ai eu une maladie génétique qui était associée après l'accouchement, on a failli me perdre à l'accouchement.
Donc la charge est lourde, c'est ça que vous voulez nous dire.
Et voilà, et maintenant, tout à l'heure, là, j'y ai demandé, j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Elle me dit, le problème, c'est que vous êtes un peu vieux.
Et voilà. Marc Bessin, Jasmine nous dit, j'ai une petite fille à 42 ans, on parle de l'infertilité féminine, assez peu de l'infertilité masculine. C'est vrai qu'on dit beaucoup, avoir un enfant après 40 ans, on parle beaucoup des femmes. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors, dans ce phénomène des parents qui ont des enfants tard, il y a une grosse asymétrie entre les femmes et les hommes. Oui. Et toute la pression, une pression sur le fait d'exister en tant que femme pour avoir un enfant, ce qui est moins le cas pour les hommes. La pression du fait de l'âge, évidemment, toute la fameuse horloge biologique. Oui. Les hommes n'ont pas à gérer cela. Donc toutes les pressions autour de cette question de l'âge pour avoir des enfants, elles sont concentrées sur les femmes. Ce ne sont pas des normes de parentalité, ce sont des normes de maternité. Donc, évidemment, les hommes, c'est pas anodin d'avoir un enfant plus tard pour les hommes, mais c'est souvent de l'ordre du confort, l'enfant qui vient, y compris dans des formes de négociation conjugale où au début ils n'avaient pas forcément envie, mais en même temps ils arrivent en ayant souvent leur carrière après, les enjeux de carrière après eux, etc. Donc d'une certaine façon, toute la pression elle est plutôt sur les femmes de ce point de vue-là. Même si, évidemment, pour autant, les hommes qui vivent cela, le vivent très bien, voire même sont dans des pratiques qui sont plus engagées que
dans la paternité.
Dans la paternité que beaucoup de pères, disons, qui sont plus au cœur de leurs enjeux de profession et qui, dès lors, reproduisent les inégalités d'investissement domestique.
Docteur Eppelbois, vous confirmez, vu de votre cabinet de gynécologue obstétricien ?
Il y a... Cette pression sur les femmes est une pression évidente. Jusqu'à présent, ce sont les femmes qui sont enceintes. Donc, quelle que soit l'infertilité au départ, que ce soit celle de la femme ou celle de l'homme, à partir du moment où l'entourage sait que le couple va avoir recours à l'assistance médicale à la procréation, même si c'est une infertilité masculine très importante, tous les regards se tournent vers la femme. C'est elle qui est enceinte ou qui a encore ses règles d'un mois à l'autre. Et donc, c'est elle qui se sent encore et maintenant coupable, bien sûr.
Jusqu'à,
la plupart du temps.
Jusqu'à quel âge recule-t-on on voit là dans les données de l'INSEE des taux de fécondité qui augmentent au-delà même de 46 ans. On commence à voir des femmes, je ne sais pas, de 50 ans qui, via l'assistance médicale à la procréation, quitte à avoir des dons et d'ovocytes et de sperme, ont des enfants passés 50 ans.
Alors, il faut bien que les auditeurs comprennent la différence entre le taux de fécondité, c'est ce que vous avez rapporté fort justement, et la fertilité, c'est-à-dire la possibilité pour une femme à être enceinte. Et donc, on estime que, par exemple, en insémination de spermatozoïdes après 40 ans, il y a à peu près, à chaque cycle, environ 5, 6, 7% de chances pour une femme d'être enceinte et de donner naissance à un enfant, parce que c'est quand même la seule chose qui les intéresse. Mmh. Et au-delà du 43e anniversaire, c'est moins de 1%. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que il n'y a pas seulement les complications de la grossesse, mais il y a des anomalies chromosomiques au fur et à mesure de l'âge sur l'ovule, qui fait que sur le pourcentage d'ovules qui vont donner des embryons capables d'évoluer jusqu'au stade enfant s'amenuise énormément avec l'âge. Donc, les naissances à 50 ans, c'est rarissime, et nos techniques d'assistance médicale à la procréation, jusqu'à une date très, très récente, étaient limitées au 43e anniversaire. La loi de bioéthique, récemment, autorise les inséminations et les transferts d'embryons jusqu'au 45e anniversaire. Donc ça va être légal. Oui. Mais il faut bien que les femmes comprennent que les professionnels sont extrêmement réservés, puisqu'entre le 43e et le 45e anniversaire, les chances de succès sont infimes. Donc il y aura droit à, mais il n'y aura pas possibilité de la médecine. Oui. Donc non, pour résumer ma réponse à votre question, non, les grossesses ne vont pas augmenter, hormis celles qui font appel à un don d'ovules de femmes jeunes. Oui. Et cela, ça sera possible encore et toujours hors frontières, puisque nous avons un âge limite en France, tel qu'il a été encore redéterminé par la loi.
Merci. Merci docteur Eppelboin et merci à vous Marc Bessin. Je rappelle la référence de votre livre avec Hervé Levillain. Parents après 40 ans, c'est aux éditions Autrement.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Ah, une histoire très ancienne avant que vous n'alliez à Marseille demain.
Bon, très bien. Vous nous direz dans 10 minutes le feuilleton avec les compagnons du devoir et tout de suite c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Il a incarné pendant de longues années le célèbre Renaud Lepic dans la série télé à succès Fais pas ci, fais pas ça. À votre micro aujourd'hui, l'acteur Guillaume de Tonquédec, de retour sur scène à partir de samedi au Théâtre Montparnasse.
Dans la pièce Times Square, pièce signée Clément Coche, dans laquelle il incarne un homme en pleine déprime.
Alors c'est un comédien qui a été très populaire et puis qui tout d'un coup peut-être a accepté des projets plus commerciaux, qui a perdu un peu son âme et qui du coup a perdu le goût de jouer. Alors que c'est l'essence de sa vie. Heureusement, il a un ange gardien, qui est son grand frère. Il va lui mettre entre les pattes, si j'ose dire, une jeune comédienne qui doit présenter une audition pour Roméo et Juliette et pour essayer de lui redonner goût à la vie, lui dire bah, « tu vas coacher cette jeune fille ». Et parallèlement, mon personnage est tombé en amitié avec un petit gars, un apprenti comédien qui est un rescapé de la guerre en Afghanistan. La jeune fille, elle, est battue par son beau-père. Donc c'est tous des gens blessés par la vie qui vont se tendre la main pour se la rendre un peu meilleure, cette vie, quoi, pour la traverser ensemble. Donc il y a plein de tendresse et beaucoup d'humour. Et c'est souvent très très drôle. Je l'ai regardé sourire, il m'a parlé de la vie. Une nuit sur son épaule.
Une nuit sur son épaule.
Moi, je trouve ça magnifique. J'adore.
Et c'est donc la voix de Véronique Sanson qu'a choisi de nous faire écouter Guillaume de Tonquédec.
Avec Une nuit sur son épaule, 1972, extrait de son deuxième album, De l'autre côté de mon rêve. Album où figure par ailleurs Comme je l'imagine et Chanson sur ma drôle de vie, de titre qu'aime aussi passionnément Guillaume de Tonquédec. Il connaît tout le répertoire de Véronique Sanson.
C'est une chanteuse qui a accompagné beaucoup de moments importants dans ma vie, qui parle extrêmement bien de l'amour, et pour avoir eu la chance de la voir enfin en concert il y a très peu de temps, alors que c'est une chanteuse que je suis depuis toujours, je l'ai vue en concert il y a très peu de temps dans la région de Bordeaux, et j'ai compris encore mieux ses textes en l'écoutant interpréter ses textes, en la voyant en chair et en os à quelques mètres comme ça. Il y a un don de soi, et ça, ça me bouleverse, quoi. Je trouve qu'elle a très bien écrit sur le sentiment amoureux. Voilà. Merci Véronique Sanson. Je lui dédie mes sourires et même tous mes éclats de voix.
Aime tous mes éclats de voix. Il me donne sans me le dire.
Il me donne sans me le dire la violence de son regard.
La violence de son regard. Voilà, tout simplement.
C'est extraordinaire ce qu'elle décrit, c'est-à-dire quelqu'un qui est amoureux, il est apaisé, il peut s'endormir et une nuit sur son épaule. Il y a beaucoup d'images physiques dans les chansons de Véronique Sanson. Elle décrit très bien l'art du couple aussi, la déchirure aussi. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de la voir après le concert. Je lui ai dit, voilà, vos chansons ont accompagné ma vie, continuez à le faire. Et ma plus grande surprise, c'est qu'elle était contente de me rencontrer parce qu'elle avait vu certaines des choses que j'ai faites. Donc c'était une rencontre très très touchante en fait, voilà, entre elle et moi, quoi. En réfléchissant à ces textes, je me dis, on pourrait faire un spectacle, faire une lecture de ces textes comme on fait des lectures de poésie.
Ça n'a, je crois, pas encore été fait.
Non, je crois pas. Et est-ce qu'elle serait d'accord? Je ne sais pas. La chanson amoureuse qui est magnifique aussi, Une nuit je m'endors avec lui, mais je sais qu'on nous l'interdit et je sens la fièvre qui me mord sans que j'aie l'ombre d'un remords. En quelques mots, elle dit tellement de choses.
Est-ce que celle-ci vous replonge à une époque particulière?
Une nuit sur son épaule, pas forcément, ça me plonge dans une envie de tendresse et d'amour, quoi, de partage aussi sensuel, parce que c'est très sensuel et simple, il n'y a rien d'obscène dans ce qu'elle écrit. C'est tellement beau quand elle dit « Oh, je l'aime, tout simplement, je l'aime ». Il n'y a pas plus simple, justement. « Oh, je l'aime, tout simplement, je l'aime », mais c'est tellement fort après ce qu'elle a dit avant que bah, ça me plaît, moi, j'aime bien être amoureux.
Une nuit sur son épaule, Véronique Sanson. C'était donc Frédéric, le choix du comédien Guillaume de Tonquédec.
Que l'on pourra voir au théâtre Montparnasse dans la pièce Times Square, écrite par Clément Coche à partir de samedi et jusqu'à mi-avril.
Et le feuilleton avec les compagnons du devoir à Pantin grâce à Sarah Guibaudot. Particularité de la formation des compagnons, le Tour de France. 3000 jeunes y sont engagés dans ce parcours qui dure 5 ans. Une ville par an, une entreprise différente à chaque fois. Il y a désormais une étape à l'étranger. À Pantin, Sarah Guibaudot a rencontré Mélissandre. Elle vient de commencer le Tour de France. Elle a choisi la sellerie après une reconversion professionnelle.
Tu peux décaler un petit peu parce que quand tu vas tracer ta ligne de couture, tu vas dans le vide.
Ok.
Là, j'explique à Anastasia comment tailler son appui-tête en mousse. On fait d'abord la mousse et après on fait la garniture en simili. Bah, c'est bien. J'aime bien tailler de la mousse, je trouve ça amusant, j'adore faire de la couture. L'année dernière, j'étais en sellerie générale, donc je faisais plein de choses, y compris de la moto et de l'automobile. Là, cette année, je suis dans l'ameublement et pouvoir travailler plein de tissus différents avec plein de couleurs, je trouve ça trop chouette. Ce qu'on fait, c'est concret, en fait. On n'a pas l'impression de travailler dans le vide. Je fais 35 heures par semaine à l'entreprise. J'ai 5 semaines de stage sur l'année chez les compagnons.
Et donc le samedi, vous vous retrouvez comme ici?
Tous les soirs de 20h à 22h et le samedi de 8h à 17h, on vient travailler à l'atelier.
Tous les soirs jusqu'à 22h et le samedi.
Oui.
Waouh.
Oui, oui, bah, on s'y fait. Si la formation chez les compagnons est aussi réputée, je pense que c'est parce qu'on passe beaucoup de temps à travailler. J'ai un parcours un peu atypique, on va dire. J'ai fait une prépa littéraire après le bac, parce que je savais pas forcément ce que je voulais faire. Les lettres, ça me plaisait. Donc j'ai eu ma licence de lettres, et puis arrive le moment où il faut choisir. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais continuer, on verra bien. J'ai eu le CAPES, je suis devenue prof de français, et en fait, j'ai fait ça un peu par dépit. Et en fait, ça me plaisait pas du tout d'être prof. Faire des cours de grammaire à des gamins de 11 ans, c'était pas du tout fait pour moi. Ce qui est malheureux, c'est que les métiers manuels sont encore trop dévalorisés quand on est dans le collège ou dans le lycée et qu'on cherche son orientation, en fait. Du coup, tu as des bons résultats, donc forcément, tu dois faire des études.
Et alors, qu'est-ce qui vous a plu, donc, chez les compagnons ?
C'était un peu comme une deuxième famille, en fait, le fait de vivre tous ensemble. Il y avait toujours quelqu'un pour nous aider. Et c'est vrai qu'après, quand on part sur le Tour de France, c'est quand même une bonne façon de continuer à progresser et à se former.
Alors racontez-moi ce Tour de France. Quand est-ce que vous avez commencé? Par où vous êtes passé?
Je viens juste de commencer. Je suis aspirante 1 et du coup ma première ville c'est Pantin. Et ensuite voilà, on fait différentes étapes en France. On en fait une aussi à l'étranger et à la fin de ça, ça se termine par un travail qu'on appelle le travail de réception pour devenir compagnon et puis 2 années de service rendu à l'association.
Alors, vous avez commencé votre Tour de France et vous avez aussi commencé à prendre des responsabilités chez les compagnons.
Oui, donc dans une maison, en fait, on a plein de gâches parce qu'on gère tous en même temps, à différents niveaux, la vie de la maison. Donc une gâche, c'est une tâche qu'on a réalisée, par exemple, entretenir le jardin, servir le café à 22h, ce genre de choses. Et aussi pour faire des choses un petit peu moins drôles quand ça se passe pas bien, pour leur tirer un peu les oreilles et puis pour gérer le budget un petit peu de la maison, etc. Et le premier aspirant, c'est le chef et gâcheur. C'est un peu comme un préfet dans Harry Potter.
Et le dernier épisode du feuilleton, ce sera vendredi.
France Inter. Le 13-14.
Vendredi, car demain, le 13-14 est à Marseille pour parler lutte contre l'insécurité. Petit avant-goût avec vous, Jean Lebrun, regard d'historien dans le vif. D'ores et déjà, on peut dire que la ville de Marseille est plus sûre qu'en 46-47.
Lendemain de libération, effondrement des notabilités constituées, impatience de toute une jeunesse, le pays dans son entier vit dans l'émoi permanent. On n'a même pas le temps d'établir des chiffres. À peine un bureau de poste est-il dévalisé que c'est une banque qui est attaquée. Et ne parlons pas des trafics du marché noir qui sont bien établis, notamment à Marseille où les clans de gangsters sont associés traditionnellement aux clientèles politique. Alors à Marseille, le premier commissaire de la République, nommé par le gouvernement provisoire, Raymond Aubrac, crée en 44 les forces républicaines de sécurité qui, par amalgame successif, deviennent les premières CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité de Provence, la 151 et la 155. Alors on les voit sur des photos défiler en ville en 46, portant des banderoles, la police au service du peuple. Leurs membres sont massivement syndiqués à la CGT, souvent proches du PC.
La police au service du peuple, on en arrive à cette année 1947.
Où le paysage politique change soudain, le général de Gaulle qui s'était mis en retrait en 46 revient dans le champ et son rassemblement du peuple français triomphe au municipal d'octobre 47, même à Marseille, où il domine le sortant communiste d'un cheveu. Alors, deuxième grand changement, eh bien, le PCF fait maintenant bande à part, ou plutôt Moscou, lui a intimé l'ordre de jouer dorénavant classe contre classe, et Marseille va être le théâtre de cette nouvelle stratégie. Première décision du nouveau maire RPF, augmenter les tarifs des trams, au motif qu'il faut bien trouver de l'argent pour les réparer. Et les deux tiers demeurent au garage. 10 novembre, des milliers de personnes descendent la Canebière. Heures violentes, arrestation de 5 meneurs qui sont menés au tribunal le 12. La foule, encadrée par le PC, entoure le palais de justice. Quand les condamnations à la prison ferme tombent, les manifestants pénètrent dans le bâtiment, malmènent les magistrats qui adoucissent le verdict. Trop tard, les manifestants se dirigent vers la mairie où entre-temps les conseillers RPF et PC en sont venus aux mains. L'hôtel de ville est envahi, le maire RPF manque de peu d'être défenestré. C'est pas fini parce que dans la soirée, des groupes de jeunes ouvriers saccagent les boîtes de nuit du quartier de l'Opéra, qui passent pour être des repères de trafiquants du marché noir, et de l'une d'elles, le perroquet bleu par une balle qui tue un jeune travailleur, Vincent Voulant.
Et alors qu'ont fait les CRS de Provence?
C'est la question qu'à Paris se pose le gouvernement, qui après l'exclusion des communistes est formé de socialistes et de centristes. Le ministre de l'Intérieur dissout la 151 et la 155, affirmant qu'elles n'ont pas su contenir les manifestants, et davantage qu'elles auront fait la courte échelle pour escalader la façade de la mairie. On sait maintenant que c'est inexact. À l'époque, ça pouvait paraître vraisemblable. Le même 12 novembre, la CGT a en effet lancé une campagne d'agitation pour mesurer la température des masses, qui sont en effet très mécontentes. Le feu prend dans toute la France. La tension est extrême quand Jules Moc est nommé ministre de l'Intérieur le 24 novembre. C'est un combattant juif de la France libre. Les députés communistes l'accueillent Jules Moche au cri de « Aïe Hitler ». Mais le 29 novembre, le secrétaire général du PC, Thorez, rentre de Moscou. Il rapporte sa conversation avec Staline. « Si vous continuez, je vous laisse tomber ». Le ton baisse, la CGT appelle à la reprise du travail et le même jour, l'Assemblée vote dans le calme la nouvelle organisation des CRS. On ne verra plus les CRS nouveau style défiler derrière le mot d'ordre « la police au service du peuple ».
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, et demain le 13-14 à Marseille. La terre au carré, ce sera dans quelques minutes, l'agriculture numérique au menu.
Vous l'entendez, le chant du voyage qui nous rappelle l'été? Avec les circuits Nouvelles Frontières, partez le retrouver. Profitez de l'offre Primo, jusqu'à moins 300 euros sur vos vacances, avec la possibilité de modifier sans frais jusqu'à un mois du départ. Circuit Nouvelles Frontières, l'émotion sera toujours là. Jusqu'au 31 janvier sur tui.fr et en agence de voyage. Conditions sur tui.fr.
Au terme d'Eugénie-les-Bains, joli village des Landes, nous prenons soin de vos articulations, de votre poids, de votre santé. Chaîne thermale du soleil, prendre soin de vous, c'est notre métier.
France Inter, 14h.